Aujourd'hui, le cours est consacré à des questions qui ont à voir avec ce qu'on appelle des systèmes faiblement désordonnés. Et il y a deux aspects qui vont être discutés. C'est d'une part ce qu'on appelle le critère de Harris, qui date des années 70 et qui a eu beaucoup de développement depuis, et les singularités de Griffiths. Donc je vais vous dire de quoi il s'agit, bien sûr. Et pour commencer, je vais vous dire à quoi on pense quand on parle de systèmes faiblement désordonnés. Donc, la dernière fois, on avait vu, par exemple, qu'un des systèmes qui est beaucoup utilisé dans la théorie des systèmes désordonnés, c'est des modèles de spin avec des couplages aléatoires. Vous avez un réseau, et puis sur chaque réseau, je prends le cas le plus simple, vous avez des spin d'Ising qui valent plus 1 ou moins 1, et vous avez une énergie qui est égal à moins somme de JJ. Peut-être qu'il faut que j'écrive plus bas, parce que ça doit être dans l'ombre. Non, enfin, donc, une énergie qui est égale à moins somme de JJ, SI, SJ. Donc, les S, ce sont les spins, ce sont les variables qui se retournent, qui sont dynamiques. JJ sont des variables qui sont gelées. Et quand on pense, quand on veut penser à un système faiblement désordonné, eh bien, on considère que le cas où ces variables gelées ont peu de fluctuations. Donc ça va faire que les JJ vont être de la forme J, un J plus, le même pour tout le monde, plus une petite perturbation. Et on se pose des questions de savoir si cette petite perturbation va changer quelque chose. Un autre cas, c'est le cas de système dilué. Donc ça, c'est un cas avec couplage qui fluctue peu. Un système dilué serait plutôt, c'est un peu ce qu'on a vu la dernière fois aussi, les JJ qui valent un certain J avec NI, NJ, où NI et NJ sont des variables qui valent 0 ou 1 pour dire si le site est occupé ou vide, occupé par un spin magnétique ou vide, c'est-à-dire pas corrélé aux autres. Donc, dans ce cas-là, on va avoir un certain nombre de sites occupés. Donc il y a un problème, disons, de percolation qui est sous-jacent, et il va y avoir des variables NI qui valent, par exemple, 0 avec probabilité 1 moins P et 1 avec probabilité P. Et les NI, ici, seront des variables gelées. Donc on va voir ces deux types de cas. Un autre cas qu'on peut considérer serait un système où les couplages, il y a un mélange de différents types de couplages, par exemple, les JJ valent deux valeurs, JA et JB, avec probabilité P et 1 moins P. Mais bon, dans tous les cas, on est dans des situations où les JJ sont plus grands ou égaux à zéro. Et d'une certaine manière, ce qui se passe à très basse température est facile, puisque si on veut minimiser l'énergie de la configuration, il suffit de mettre tous les spins parallèles, et on a un des fondamentaux du système. Parfois, le seul fondamental ou les deux seuls fondamentaux du système, dans le cas de la percolation, il peut y avoir un peu plus de dégénérescence. Mais d'une certaine manière, la phase de basse température va être relativement simple. Alors, quelles sont les questions auxquelles tente de répondre le critère de Harris et les singularités de Griffiths ? Dans le critère de Harris, on se pose la question de savoir est-ce que si je mets un petit peu de désordre, par exemple en mettant ces epsilon ij, ou si p est différent de 1, ou bien ici, pareil ici, est-ce que le comportement critique va être le même que dans un système pur, c'est-à-dire où tous les couplages seraient les mêmes. Donc, dans le critère de Harris, on se pose la question du changement d'universalité dû au désordre. Est-ce que le désordre change la classe d'universalité ? Donc, je vais revenir sur cette question dans une minute. Et dans le cas des singularités de Griffiths, alors au départ, c'est une question pour le physicien qui est peut-être un petit peu subtile, parce qu'il se pose des questions sur l'analyticité de l'aimantation en fonction du champ magnétique. Donc, c'est des questions d'analyticité qui peuvent correspondre, par exemple, au fait qu'une série, au lieu de converger, diverge, mais malgré tout, toutes les dérivées existent. Donc, c'est quelque chose d'assez difficile à voir du point de vue physique, mais comme j'essaierai de vous le montrer, en fait, ça a des conséquences dans la dynamique et ça induit une dynamique lente qui est en principe tout à fait observable. Donc ça sera la deuxième partie de ce que je vais raconter. Donc je vais commencer par parler du critère de Harris, qui date de 1974. Et je vais essayer de vous dire ce qu'il prédit, et après on va voir comment on peut le comprendre, et je vais vous présenter deux façons de le voir, et il y en a d'autres, plus ou moins rigoureuses selon ce qu'on veut faire. Alors, d'abord, un rappel, qu'est-ce qu'on entend par le mot « universalité » ? L'universalité, je commence par ce qu'on est censé savoir, quand on utilise, quand on étudie les systèmes désordonnés, on a toujours en arrière une arrière-pensée qu'on suppose à peu près connue les choses sur le système pur correspondant, où il n'y a pas de désordre. Donc l'universalité des systèmes purs, d'abord, bien, ça a surtout à voir avec ce qu'on appelle les comportements critiques. Par exemple, si vous prenez un morceau de fer et que vous essayez de mesurer son aimantation en fonction de la température, vous allez avoir une courbe de ce genre. Au-dessus d'une certaine température, qu'on appelle souvent la température de Curie, l'aimantation spontanée, l'aimant n'est plus un aimant, et en dessous, il y a une certaine aimantation spontanée. Et le comportement critique a à voir avec la façon dont cette aimantation va s'annuler quand on se rapproche de cette température critique. Donc j'écris M va se comporter comme Tc moins T à la puissance bêta. Donc, bêta, c'est un exposant critique, et cet exposant critique est universel. En quoi est-ce qu'il est universel ? Si vous faites cette mesure pour le fer, qui est un matériau expérimental, si vous voulez, sur lequel vous pouvez faire des expériences, si vous refaites, vous posez la même question pour le modèle d'Easy, pur, donc c'est... vous avez un réseau régulier, eh bien, vous allez trouver que l'aimantation se comporte en Tc moins T puissance bêta avec exactement le même bêta. Donc c'est en ça que c'est universel. Donc ça, c'est aussi un modèle d'aimantation, un modèle de magnétisme. Si vous refaites, si vous vous posez des questions à propos de fluides, et pour toute une famille de fluides, c'est-à-dire pas uniquement l'eau, mais si vous prenez du méthane, toutes sortes de fluides, eh bien, si vous essayez de regarder le diagramme des phases d'un fluide, vous avez ici la densité, là, la température, vous allez avoir une espèce de diagramme de ce genre, avec ici une densité critique et une température ici, et température critique qui correspond au sommet de cette courbe. Et d'un côté, vous avez une phase de basse densité. Ici, vous avez un gaz. Là, vous avez un liquide. Si vous êtes à assez haute température, vous passez du gaz au liquide sans aucune... continuellement. Si vous êtes... à suffisamment basse température, au-dessous de ce Tc, vous passez du gaz au liquide avec une coexistence, une région où vous avez à la fois coexistence entre liquide et gaz. Et l'universalité, elle apparaît dans le fait que la densité... si vous regardez la forme de cette courbe, T moins Tc va être de la forme rho moins rho c à la puissance bêta. Et le bêta que vous allez voir, donc pour toutes sortes de fluides que vous pouvez considérer dans la nature, ou pour le fer, ou pour le modèle d'Ising, il va être le même. Donc c'est en ça que c'est une propriété universelle. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise parce que j'ai pas bien recopié mes notes. C'est 1 sur bêta. Bon, il se trouve que c'est 1 sur bêta ici, mais c'est le même exposant qui est là-bas. Et donc, cet exposant est universel, et cet exposant, il dépend juste, dans tous les cas dont je parle ici, il dépend juste de la dimension de l'espace. Donc, le bêta, je mets pur, puisque là, il s'agit d'un modèle pur, eh bien, il vaut à peu près un tiers. Donc, ça, c'est un nombre qui est mesuré, qui est connu avec une certaine précision, mais qu'on ne connaît pas exactement, en dimension 3. Et si on reprend le modèle d'Ising, donc là, je l'ai dessiné en dimension 2, mais bon, vous imaginez bien un cube en dimension 3. Si vous le prenez en dimension 2, il vaut un huitième. Et on sait même prédire ce qu'il vaudrait en dimension 4, il vaudrait un demi, etc. Donc c'est un nombre universel. C'est un exposant critique. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres exposants qui représentent le comportement critique près d'une transition. Alors, juste pour terminer avec ce système pur, parce qu'on va retrouver le même phénomène dans le cas des ordonnées, il y a ce qu'on appelle le crossover. Et le crossover, pour l'illustrer, je prends un exemple. Imaginez que j'ai un système qui, bon, par exemple, un fluide, ou bien un modèle d'Ising, si vous êtes un théoricien, que vous considérez dans la géométrie suivante. Très grand dans cette direction, donc je suppose qu'il est infini dans ces deux directions, et d'une taille L dans la troisième direction. Et donc on peut se demander, est-ce que ce système est tridimensionnel ou bidimensionnel ? Alors ce qui va se passer, c'est qu'il y a un phénomène qui s'appelle le crossover, qui va nous dire que, tant qu'on n'est pas trop près de la température critique, on va observer le système comme étant à trois dimensions. Et puis quand on se rapproche très très près, on va se rendre compte qu'en fait le système est bidimensionnel. Donc si j'essaye de représenter l'aimantation en fonction de la température, l'aimantation, donc ça c'est plutôt une représentation, disons, le log de l'aimantation, puisqu'ici on parle d'exposant critique, donc le log de l'aimantation en fonction du moins log de T moins TC, eh bien, quand vous êtes suffisamment loin de la température critique, déjà près, mais pas trop près, vous allez vous dire le système est à trois dimensions, donc je vais avoir le bêta à trois dimensions, qui va être la pente ici. Et puis quand vous allez très très près, vous allez vous rendre compte, en fait, ce serait plutôt comme ça, qu'on observe le bêta à deux dimensions. Quand, à partir d'un certain moment, le système va se rendre compte qu'il est à deux dimensions. Et quand est-ce qu'il va se rendre compte de ça ? Eh bien, intuitivement, c'est assez facile. Vous avez une longueur de corrélation pour un système tridimensionnel qui diverge avec un exposant nu. Donc c'est un nu, je mets un 10-3 parce qu'on est à trois dimensions. Et ce qui se passe, c'est que quand cette longueur de corrélation va être de l'ordre de grandeur de la largeur de mon système, eh bien, le système va se rendre compte qu'il est bidimensionnel et pas tridimensionnel. Donc ça permet de se faire une idée de où se trouve cet endroit. Et plus, évidemment, plus le système sera large, plus L sera grand, plus la température à laquelle on va observer ce crossover va se rapprocher de la température critique. Donc ça, c'est juste un petit rappel pour les systèmes purs. Maintenant, j'en viens à ce qu'on appelle ce critère de Harris. Donc je vais l'énoncer. Il y a pas mal de généralisations et on va voir qu'il y a cette question de crossover qui va se produire. Donc ça va être le numéro 2, critère de Harris. Alors, donc, ce à quoi, enfin, le cas qu'on va avoir en tête, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un système qui a certains couplages. Ces couplages valent une certaine valeur, et puis ces couplages fluctuent un petit peu. Il y a un petit peu de désordre. Donc le epsilon ij, il est beaucoup plus petit que le j, et on va prendre un cas où le epsilon ij à une moyenne zéro. Si vous faites vraiment le calcul, parfois il vaut mieux prendre que les fluctuations d'une certaine fonction assez simple, par exemple tangente hyperbolique de jij à des fluctuations d'onde moyenne nulle. Ça, c'est purement un aspect technique, mais qui n'a pas une grande importance. Alors, qu'est-ce que dit le critère de Harris? Il dit, si alpha du système pur, alpha, c'est l'exposant de la chaleur spécifique, je vais dire dans un instant ce que ça veut dire, si alpha du système pur est positif, ou bien ce qui est équivalent, donc je vais expliquer tout ça, c'est que l'exposant nu de la longueur de corrélation est plus petit que 2 sur D, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le désordre va être, alors, en anglais on dit relevant, en français on dirait pertinent, donc je vais utiliser le mot relevant. Et ce que ça veut dire, ça veut dire que même si vous mettez un tout petit peu de désordre, eh bien, le comportement critique va être changé. Et après, ça ne vous dit pas ce qui va devenir, ça vous dit simplement le comportement critique du système pur. Une faible dose de désordre va le changer. Ce qui veut dire, si vous pensez en termes de cette histoire de crossover, c'est que, bon, si vous avez très très peu de désordre, peut-être que le moment où vous allez voir le comportement critique changer va être très très près de la température critique. Donc ça veut dire que vous pouvez quand même faire des expériences, même s'il y a un petit peu d'impureté, et voir les comportements du système pur, hein, tant que vous approchez pas trop trop près de la température critique. Si alpha pur est négatif, ce qui revient à dire que le nu pur est plus grand que 2 sur D, alors le désordre est irrelevant. Ça veut dire que si on change, on rajoute très peu d'impuretés, le comportement critique va être le même. Alors, c'est pour ça que j'utilise le mot relevant et irrelevant plutôt que pertinent et impertinent, qui a un sens un peu différent en français. Et si alpha pur égale 0, j'en dirai un mot tout à l'heure, eh bien, c'est un cas marginal. Et le critère de Harris, d'une certaine manière, ne permet pas de conclure, mais il faut aller un peu plus loin. Par exemple, il faut utiliser des méthodes de renormalisation ou d'autres approches pour pouvoir décider, de savoir si un tout petit peu de désordre va modifier complètement le comportement critique ou le laisser inchangé. Donc je donnerai des exemples là-dessus. Alors, pour donc, ce critère de Harris, il fait appel à des quantités qui sont alpha, l'exposant de la chaleur spécifique, et nu, enfin, ou nu, qui est l'exposant de la longueur de corrélation. Donc, l'exposant de la chaleur spécifique, ça veut dire que la chaleur spécifique se comporte, alors je mets singulier, ça comporte comme T moins TC puissance moins alpha. Donc, par exemple, si alpha est positif, c'est une chaleur spécifique qui diverge. Et si alpha est négatif, ben, la partie singulière tend vers zéro, mais ça n'empêche pas qu'il y a peut-être des termes réguliers à côté. Donc, alors, ça, c'est la façon dont on définit la chaleur spécifique. Je vais en reparler un tout petit peu dans un instant. Ou bien l'exposant nu, c'est la longueur de corrélation du système se comporte comme T moins TC puissance moins nu. Ici, dans tous les cas, les seuls exposants qui sont importants, ce sont les exposants du système pur. Alors, en fait, ces deux conditions, là, ça serait nu pur égal, ces deux conditions sont les mêmes parce qu'il existe une relation connue dans la théorie des phénomènes critiques, qui s'appelle la relation d'hyperscaling pour les systèmes purs, qui est que alpha c'est égal à 2 moins D nu. Alors, peut-être, je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette notion de chaleur spécifique. Bon, la longueur de corrélation, c'est simplement de dire un système, essentiellement, quand il a une certaine longueur de corrélation, au-delà de cette longueur de corrélation, ou plutôt au-delà de 10 ou 20 fois cette longueur de corrélation, il y a une espèce de décroissance exponentielle avec cette longueur caractéristique. Donc des régions qui sont à des distances plus grandes ne se voient pas, ne sont pas corrélées. Donc ça, c'est la longueur de corrélation. La chaleur spécifique ou capacité calorifique, c'est simplement la définition, c'est comment l'énergie d'un système varie en fonction de la température. J'essaye de chauffer un petit peu le système, combien d'énergie il faut lui fournir. Et la façon dont cet exposant apparaît, il apparaît dans le cadre, par exemple, de l'énergie libre. Donc si vous essayez de calculer la fonction de partition d'un système très grand, eh bien, log de la fonction de partition, donc c'est l'énergie libre à une constante près, voilà, c'est moins F sur T, enfin, j'ai mis constante de Boltzmann égale à 1, eh bien, ce que veut dire qu'il y a cette forme singulière, ça veut dire que si je suis près de la température critique, eh bien, l'énergie libre va se développer A0 plus A1 T-TC plus A2 T-TC carré, etc. Donc il y a un petit développement de l'énergie libre, comme ça, en série de Taylor. Et puis qu'à un certain moment, selon la valeur de alpha, eh bien, ce développement va s'arrêter et au lieu d'avoir que des termes réguliers, il va apparaître quelque chose, je mets A plus ou moins, T-TC puissance 2 moins alpha. Donc vous avez un développement, puis ce développement, si alpha par exemple est égal à 1,5, ben, il va y avoir A0 plus A1, et puis avant d'arriver au terme A2, je vais tomber sur un terme singulier qui est là. Alors j'ai mis plus ou moins parce qu'il y a en principe une amplitude quand on est au-dessus de la température critique. J'ai mis A plus par exemple, et puis A moins de l'autre côté. Et donc quand vous vous intéressez à l'énergie, l'énergie c'est une dérivée première de l'énergie libre. Donc l'énergie va avoir une partie singulière, elle peut avoir aussi un début de développement régulier, et puis une partie singulière qui va être en 1 moins alpha, et la capacité calorifique va avoir une partie singulière en moins alpha. Donc essentiellement, il faut garder en tête que quand on a cet exposant alpha, eh bien, ça nous dit que l'énergie libre du système pur, si c'est l'exposant du système pur, eh bien, correspond dans ce développement à un terme singulier. De la même façon, à la longueur de corrélation, j'ai mis ça, mais il y a une amplitude qui peut dépendre de vent, qui peut dépendre de si on est au-dessus ou au-dessous de TC. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce que prédit le critère de Harris. Et encore une fois, même si le désordre est relevant, ça change le comportement critique, mais si le désordre est très très faible, eh bien, on s'attend à ce qu'il y ait un crossover, c'est-à-dire que pendant un certain temps, quand on se rapproche de TC, on n'est pas du tout sensible au désordre, et s'il est relevant, à une certaine température de crossover, on va avoir un comportement modifié dû au désordre. Alors, ce que je vais faire maintenant, donc ça c'est l'énoncé du critère de Harris, et je vais vous exposer deux façons de le comprendre. La première, qui est en fait très souvent expliquée, c'est un argument qui est dû à Harris et qui est repris dans beaucoup d'exposés sur la théorie des systèmes désordonnés. Donc, argument de Harris. Alors, cet argument de Harris, il considère la chose suivante. Il considère un très grand système. Je suis toujours dans le cadre où les couplages valent J plus un petit nombre epsilon et J, petit. Et on considère un grand système et on se dit, si on est à une température, donc je vais prendre un certain axe de température, ici, j'ai la température critique, disons, du système pur, et je me place à une certaine température, T, proche de cette température du système pur. Alors, si je suis à une certaine distance de cette température du système pur, je me place à cette température T, et bien, il va y avoir une longueur de corrélation pour mon système pur, comme on l'a vu, qui diverge en T-TC puissance moins nu. Donc ça, c'est la définition de l'exposant nu d'un système pur. Donc, plus je me rapproche de du système pur, plus je me rapproche de cette température critique du système pur, plus la distance sur laquelle le système est corrélé devient grande. Bon, je me place à une certaine température ici, et comme je le disais, des points qui sont plus éloignés que la distance de cette distance de longueur de corrélation, essentiellement ne se voient pas. Hein. Cette distance, ou 10 fois cette distance, ou 100 fois cette distance, puisque, essentiellement, on s'attend à ce que les choses décroissent exponentiellement avec cette distance. Donc, si on est à 100 fois cette distance, les régions ne se voient pas. Et donc, l'idée de Harris, c'est de couper mon système sur des régions qui ont la taille de cette longueur de corrélation, de 10 fois cette longueur de corrélation. Donc, je découpe mon système, et essentiellement, ce que je peux me dire, c'est que chacune de ces régions, finalement, ignore ce qui se passe dans les régions à côté. C'est des choses qui sont assez indépendantes, puisque les corrélations sont très faibles. Alors, ce qu'il dit, c'est, prenons une de ces régions, donc je vais avoir ma région numéro 1, 2, 3, etc., n. Bon, plus je me rapproche de TC, moins il y aura de ces régions, puisqu'elles seront de plus en plus grandes. Mais plaçons-nous à une température T qui est à une certaine distance de ces TC purs. Et maintenant, regardons une de ces régions. Alors, dans cette région, bah, il y a des couplages, comme j'ai dit, qui valent JJ, J plus epsilon IJ. Donc, ces couplages, dans une certaine région, ils vont être en moyenne, dans certaines régions, un petit peu plus forts que la moyenne ou un petit peu plus faible que la moyenne. Donc le couplage moyenné dans un bloc, juste si je prends ce bloc, il ne va pas être exactement sa moyenne, enfin sa moyenne empirique, si vous voulez, c'est-à-dire la somme de tous les couplages à l'intérieur de ce bloc, ne va pas être J. Il va être J plus ou moins quelque chose qui fluctue. Si je suis au premier bloc, je vais avoir quelque chose. Et donc si je prends 1 sur nombre de liens dans un bloc multiplié par la somme des couplages à l'intérieur du bloc, bien, ça va être J. Et puis, il y a ce terme-là qui fluctue. Et comme la moyenne, il y a cette partie aléatoire, et si j'ajoute tous ces couplages à l'intérieur du bloc, ça va donner quelque chose qui fluctue. Et l'ordre de grandeur des fluctuations, c'est racine de epsilon carré sur la taille du domaine. Puisque il y a peut-être une constante devant, qui est ça, c'est essentiellement le nombre de liens à l'intérieur du bloc, puisque L puissance D, c'est une constante fois L puissance D, c'est le nombre de liens à l'intérieur du bloc. Donc, ça, c'est simplement un théorème central limite. Hein, c'est de me dire que la somme d'une quantité aléatoire, la somme des epsilon J, eh bien, ça va être typiquement de l'ordre de racine de epsilon 2 divisé par le nombre de termes dans cette somme. Bon. Donc ça, c'est vraiment la clé de cette histoire du critère de Harris. Et comme la taille des blocs, c'est essentiellement cette taille des blocs ici, petit l, c'est la longueur de corrélation, ou 100 fois la longueur de corrélation, comme vous voulez, eh bien ceci, ça va être J plus ou moins une constante racine de epsilon carré, et je remplace L par la longueur de corrélation. La longueur de corrélation, elle est ici, et ça donne T moins TC puissance nu D sur 2. Bon. Donc voilà où on en est. Si je regarde la somme des couplages dans un bloc, eh bien ça va valoir, enfin la moyenne des couplages dans un bloc, ça vaut J. Et puis, dans certains blocs, c'est un petit peu plus fort. Dans d'autres blocs, c'est un petit peu plus faible. Et la façon dont ça fluctue d'un bloc à l'autre, c'est T moins TC puissance nu D sur 2. Bon. Alors maintenant, quand on fait tous ces calculs de fonctions de partition en physique statistique, en fait, partout, on ne considère que l'énergie divisée par la température. Donc, la seule chose qui compte, c'est les JJ divisés par la température. Chaque chose toute seule importe peu. Il n'y a que ce rapport qui va intervenir dans les calculs. Donc, puisque il n'y a que ce rapport qui intervient, eh bien tout ça me dit que un bloc qui aura des couplages un petit peu plus forts que J, il va avoir une température, sa température où il aimerait s'orienter, s'ordonner, est un peu plus haute que la température du système pur. Si les couplages sont un peu plus forts, il faut chauffer un peu plus. Donc la température à laquelle le premier bloc qui a des couplages un petit peu plus forts à cause de cette fluctuation va avoir envie de s'orienter, va être un petit peu élevée. Et donc je vais essayer de dessiner sur cet axe de température comment vont être les températures auxquelles chacun de ces blocs a envie de s'orienter. Et il y a deux situations possibles. La première, c'est que ces températures vont être comme ça. C'est-à-dire elles vont être assez regroupées devant TC pur. Et quand T va se rapprocher, la longueur de corrélation va augmenter. Donc les fluctuations de ces sommes des JIJ vont diminuer. Et donc, il peut se faire que je rapproche la température et je vois mes points rouges, les températures auxquelles chacun des blocs a envie de s'orienter, se regrouper de plus en plus. Ce scénario, c'est le cas irrelevant. Donc, c'est irrelevant si les températures qui apparaissent ici se regroupent plus vite que la vitesse avec laquelle la température se rapproche de TC. La situation opposée, c'est cette situation-là. Vous avez TC, vous êtes à une certaine température que vous choisissez, proche de TC, et maintenant vous regardez à quelle température chacun des blocs a envie de s'orienter, et vous trouvez quelque chose comme ça. C'est-à-dire, les températures qui fluctuent de bloc à bloc sont beaucoup plus grandes que la distance entre T moins TC. Donc, ce qui veut dire que vous êtes à cette température et certains blocs sont déjà ordonnés, d'autres blocs sont encore dans la phase désordonnée. Donc, vous avez une espèce de mélange où le système ne ressemble plus du tout au système pur. Et plus vous vous rapprochez de TC, plus cette situation empire. Donc ça, c'est l'argument, c'est un argument, bien sûr, ce n'est pas une preuve mathématique, mais c'est un argument qui est dû à Ries. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, eh bien, le calcul est essentiellement terminé, puisque vous vous posez la question, est-ce que cette fluctuation de couplage, qui est essentiellement le même ordre de grandeur que la fluctuation de ces températures critiques, puisqu'il n'y a que ce rapport qui importe, eh bien, vous posez la question de savoir est-ce que T moins TC puissance du D, est-ce que c'est beaucoup plus grand que T moins TC? Ça, c'est relevant. Ça me dit que les fluctuations de température, on est dans le cas qui est ici, les fluctuations de température critique sont beaucoup plus grandes que la distance à laquelle je me trouve. Donc, il y a des régions qui sont désordonnées, d'autres qui sont ordonnées. Et puis, le cas contraire, c'est irrelevant. Et si, pardon, et puis c'est, comme j'ai oublié le 2, voilà, les fluctuations de température critique, elles sont données par T moins TC puissance nu D sur 2. Hein, ici, il y avait nu D sur 2. Donc, et bon, si vous essayez de traduire ça comme une inégalité sur nu D, vous arrivez à ce qui est écrit ici. C'est-à-dire, si nu D sur 2 est plus petit que 1, ben, le nombre qui est là est beaucoup plus grand que l'autre, hein, puisqu'on s'intéresse à la situation où T est envers TC. Donc ça, c'est l'argument de Harris. Alors, c'est ce qui est connu comme tel. Alors, bien évidemment, il y a différentes généralisations dont je vais parler dans un moment. Mais maintenant, ce que je voudrais vous présenter, c'est une autre façon qui est peut-être un peu moins argumentaire, mais qui est toujours pas des mathématiques d'acier, si vous voulez, mais qui est une façon un peu naturelle d'aborder le problème, où on va voir également apparaître ce critère de Harris. Donc c'est un calcul perturbatif. Donc, je m'intéresse toujours à ces modèles avec des spins sur un réseau régulier, avec des couplages qui fluctuent un petit peu. La même idée peut se généraliser à beaucoup d'autres systèmes. C'est juste pour traiter un cas particulier, un cas, disons, un peu représentatif de ces problèmes. Et donc, c'est mes couplages J plus epsilon IJ. Epsilon IJ vaut quelque chose de petit. Et donc, comme on l'a vu la dernière fois, a priori, ce que je dois faire, c'est calculer la moyenne de Z sur le désordre, c'est-à-dire moyenner la fonction de partition sur les couplages JJ. Et a priori, si je regarde la fonction de partition, bien la fonction de partition, elle peut s'écrire sous la forme suivante. Enfin bon, j'écris la fonction de partition, c'est j'écris Z0 plus somme sur les liens. Les liens IJ, quelque chose comme ça, plus je pourrais faire un développement en me disant le désordre est petit, I prime voisin de J prime, BIJ, B prime, J prime, epsilon IJ, epsilon I prime, J prime, et ainsi de suite. Je peux me dire, bon, bah, a priori, la fonction de partition va dépendre de tous ces couplages. Ces couplages sont petits. Et donc, allons-y, faisons un développement, essayons de chercher ces coefficients qui sont là. Bon, et après, je prendrai le log et je moyennerai ce log. Bon, on pourrait, d'ailleurs, enfin, je le réalise, c'est ce que j'ai écrit dans mes notes, mais je réalise que je pourrais écrire directement le log de Z avec des coefficients comme ça. Ça me faisait plaisir. Bon. Alors, bon, bah manifestement, si je peux avoir ce développement et que j'arrive à connaître les B, les A, etc., je vais prendre le log, je vais moyenner sur les epsilon et je vais avoir mon développement faible désordre. Alors, il y a une petite chose qu'on peut remarquer, c'est que, et qui est bien utile, c'est que tous ces paramètres qui sont là, en fait, ce sont des propriétés du système pur. C'est-à-dire que j'ai rien besoin de savoir sur le système désordonné, c'est des coefficients du système pur. Par exemple, le A. Le A, c'est le plus facile. Bon, imaginez qu'au lieu de mettre des couplages qui sont tous différents, je les mets tous égaux. Donc je mets JJ égale J plus epsilon. Epsilon indépendant de IJ. À ce moment-là, je suis encore avec un système pur. J'ai juste augmenté un peu les liens du système. Donc si tous les epsilon J sont égaux, eh bien, au premier ordre, je vais avoir ici un coefficient, mais c'est un coefficient du système pur. Et si vous considérez un système, par exemple, ce qu'aiment bien faire les théoriciens, c'est-à-dire avec des conditions périodiques dans toutes les directions, pour des raisons de symétrie, tous les AIJ sont les mêmes. Donc, ce AIJ, c'est une propriété du système pur et que je peux calculer directement, facilement. Et donc, je vais vous dire ce qu'il vaut. C'est juste comment l'énergie libre va augmenter si je changeais tous les liens de epsilon, mais tous égaux, au lieu de les mettre de manière aléatoire. Donc, le AIJ, il vaut 1 sur le nombre de liens, D de log Z0 sur DJ, ou bien, bon, si vous préférez raisonner en termes de l'énergie, 1 sur le nombre de liens, E0 sur T divisé par JT. Bon, donc ça, c'est l'énergie du système en moyenne, mais c'est juste un développement comme ça. Bon, et donc, si je fais ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire de prendre l'énergie libre, le log de Z, le développer en epsilon et de moyenner après, eh bien, je peux le faire, et comme j'arrive j'ai des informations assez précises sur ces AIJ, eh bien, je vais pouvoir avoir les moyennes qui m'intéressent. Alors, je saute deux, trois, quelques lignes de calcul qui sont un peu embêtantes à faire parce que si on fait vraiment attention, y a des B qui interviennent quand je vais aller au deuxième ordre, etc. Bon, c'est pas très compliqué, mais ça demande un tout petit peu d'attention, mais c'est pas très compliqué. Eh bien, on arrive à la chose suivante. on arrive à ce que la moyenne de l'énergie libre, c'est égal à log de Z0. Donc Z0, c'est le système pur. Bon, il n'y a même pas besoin de moyenner, puisque c'est le système pur. Et puis, il y a moins epsilon carré, donc bon, il y a peut-être sur 2, enfin, bon, il y a moins E0 carré, ou il y a peut-être plus, bon, peu importe s'il y a un plus ou un moins, et nombre de liens sur T carré. Alors, ça vient vraiment de ce terme AIJ carré, qui, quand je vais prendre le log, il va y avoir un terme linéaire qui donne, en epsilon qui donne 0 parce que epsilon IJ vaut 0, la moyenne, pardon, la moyenne vaut 0. Hein, j'ai supposé que toute la moyenne était dans ce J, et le premier endroit où il apparaît quelque chose, c'est epsilon carré. Donc vous tombez sur une énergie libre où apparaît les AIJ au carré, et puis il y a des termes linéaire en A0, je sais pas, C1, E0, plus C0, C2, C0. Voilà. Disons, c'est essentiellement, à l'ordre le plus bas, vous avez la correction de l'énergie libre à l'ordre epsilon 2. Bon, et si vous êtes courageux, bon, après, il faut de plus en plus de courage pour avoir les termes en epsilon 3, epsilon 4, etc. Et assez vite, on s'épuise à faire ça, mais il y a des gens qui l'ont fait et qui ont permis de comprendre un certain nombre de choses. Alors maintenant, essayons de voir ce que je peux tirer déjà de ce développement qui est ici. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'énergie libre du système pur est de la forme A0 plus A1 T moins TC plus A2 T moins TC au carré, plus, à un certain moment, il va apparaître la partie singulière, T moins TC puissance 2 moins alpha, avec un plus ou moins. Ça, c'est ça. Et maintenant, ici, j'ai du E0 carré et du E0. Bon, déjà, voyons E0 à quoi il va ressembler. E0, c'est essentiellement la dérivée de ceci. Donc, E0, il va être de la forme B0 plus B1 T moins TC. Et puis, comme c'est la dérivée, il va s'arrêter quelque part à B, si vous voulez, T moins TC puissance 1 moins alpha. Puisque j'ai dérivé le log. Donc, quand je vais regarder tous ces termes-là, bon, il va y avoir des choses régulières que je ne vais pas forcément écrire, bon, des B0, des B0 carré, des tout ce qu'on veut. Et puis, je regarde les termes singuliers. Donc ici, j'ai E0 carré. Alors, E0 carré, quand je vais prendre le carré de cette chose, je vais avoir des choses en T moins TC puissance 2 moins 2 alpha. Et puis, je vais avoir aussi, quand je vais prendre le carré, par exemple, B0B, je vais avoir des termes en T moins T0, TC, pardon, puissance 1 moins alpha. C'est les termes les plus singuliers que je vais rencontrer. Il y aura le carré de celui-là. Après, il pourrait y avoir encore d'autres termes plus singuliers, enfin, moins singuliers, mais d'autres termes singuliers aussi. Mais je regarde ce qui va dominer. Donc, j'ai T moins TC puissance 2 moins alpha, et T moins TC puissance moins alpha, et tout ça multiplié par epsilon carré. Pardon, je devrais mettre une barre là-dessus, pardon. C'est la barre sur le désordre. Bon, alors, voyons où on en est. J'imagine que j'ai fait ce développement. Je dis que, premier ordre, dans le désordre, c'est ce qui arrive. Là, dans le terme dominant, il y a le terme le plus singulier. Et maintenant, la première correction, elle me fait apparaître des choses comme ça. Alors déjà, je me dis, oulala, c'est embêtant, parce que quand T va devenir proche de TC, ce terme qui est singulier là va être beaucoup plus grand que le terme qui est ici. Mais ça, c'est pas très grave. Alors, bon, ça, c'est la cuisine un peu des physiciens. C'est pas très grave, parce que ce terme qui est là, je pourrais l'interpréter comme une façon de modifier la température critique. Si je disais ma température critique, elle est quelque chose comme ça, epsilon carré fois une constante, je ne sais pas, k, puissance 2 moins alpha. Si je disais ma température critique due au désordre, elle est de cette forme, vous voyez que si je développe en puissance de epsilon carré, ça va me faire apparaître des termes en 1 moins alpha. Donc ça, bon, c'est le terme le plus singulier, mais d'une certaine manière, on peut le ravaler. Alors, si vous voulez l'avaler dans la température critique et le faire de manière un peu plus propre, vous utilisez de la renormalisation, mais en gros, c'est ce qui se passe. Donc, en gros, ce terme le plus singulier, d'une certaine manière, vous pouvez vous en débarrasser en disant que ça a modifié, ça a un peu déplacé la température critique. Et puis, ensuite, il vous reste celui-là. Et maintenant, donc, une fois que vous avez fait ça, vous dites log, je vais l'écrire, vous dites que log de z, bon, il y a des termes réguliers, et puis il y a le premier terme non régulier, il va être t moins tc plus k epsilon 2 puissance 2 moins alpha, donc, qui m'aura pris le système pur plus la première correction, et puis il me reste celui-là. Et celui-là, il est en t moins tc. Alors, à l'ordre où je travaille, est-ce que c'est t moins tc ou t moins tc k epsilon carré? Je ne peux pas dire, donc j'en profite pour mettre ce qui m'arrange. Puissance 2 moins alpha. Et puis, il y a epsilon carré devant. Hein, si vous prenez ce terme qui reste, c'est epsilon carré t moins tc puissance 2 moins alpha. Donc il réapparaît ici. Bon, j'ai rajouté quelque chose, bon, qui est un peu ce que j'espère trouver à l'ordre suivant pour que ça prenne la même forme qu'ici. Donc hein, tout ça, c'est un peu de la manipulation de physicien, pas très précautionneux, et qu'on peut essayer de rendre plus justifié si on se fatigue pour aller chercher ce qui vient derrière. Et donc maintenant, voilà, mon développement. Mon système pur, sa température a été un peu shiftée, et il me reste ce terme. Et maintenant, on voit apparaître le critère de Harris tout à fait. On se dit, quand le désordre est très petit, bon, là, c'est une correction, mais si je me rapproche très, très près de la température critique, eh bien, si alpha est positif, ce terme-là va exploser par rapport à celui-là. Puisque si alpha est positif, 2 moins alpha tend vers 0 beaucoup plus lentement que 2 moins 2 alpha plus lentement que 2 moins alpha. Donc ça me dit que la correction va exploser, le terme correctif va devenir beaucoup plus grand que le terme dominant quand je me rapproche de la température critique si alpha est positif. Si alpha est négatif, eh bien, c'est le terme pur dominant. Je vais avoir un shift, un déplacement de la température critique, mais le terme dominant va persister et ceci ne constituera qu'une correction. Donc ça, c'est un peu une interprétation du critère de Harris qui est un peu pédestre, mais qui peut fonctionner. Alors, bon, en fait, dans un certain nombre de problèmes, par exemple ceux dont on va parler Jean-Baptiste tout à l'heure, eh bien, il y a beaucoup de choses qui simplifient, c'est-à-dire que tout ce qui est là s'en va, tous les coefficients réguliers s'en vont, et l'analyse est simplifiée d'une certaine manière. Bon, mais de toute façon, je pense que son approche est beaucoup plus rigoureuse que ce que j'ai raconté ici. Bon. Alors, ce que me dit aussi... donc je vais faire un certain nombre de remarques liées à ce critère de Harris, qui ont été des développements qui ont suivi donc ce travail de 1974. Et en fait, il y a beaucoup de publications encore actuellement sur le critère de Harris. Donc, je fais un certain nombre de remarques. Bon. La première, c'est que ce calcul donne aussi donne une idée de la température de crossover. C'est-à-dire, à partir de quel moment le terme qui est ici va devenir prépondérant par rapport au terme qui est là. Et donc, il suffit de comparer ces deux termes, et c'est dit que la première remarque, c'est le crossover. C'est-à-dire, si j'ai un certain désordre, à partir de quel moment je vais voir que le comportement critique est modifié. Et donc, en comparant ces deux termes, vous allez trouver que T-TC, ou T-TC plus epsilon carré avec ce coefficient-là, K, bien, se comporte comme le désordre à la puissance 2 sur alpha. Hein, c'est juste en comparant ces termes. Alors, attendez, pourquoi j'ai mis 2 ? J'ai l'impression que c'est 1 sur alpha. Je crois que dans mes notes, c'est 2. Mais je... bon. Donc, en fait, de toute façon, en regardant à partir de quel moment ce terme, hein, donc l'epsilon 2 est petit, ce terme, quand je me rapproche de TC, augmente plus vite que le terme qui est là, donc à un certain moment, il va l'emporter. Alors, bien évidemment, si vous voulez savoir ce qui se passe pour le système des ordonnées quand alpha est positif, une approche, mais qui est très, très dure, et finalement, je ne pense pas que les gens ont réussi à la mener, c'est de continuer cette série et puis d'essayer de la ressommer. En fait, c'est ça qu'il faudrait faire, mais à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Sauf peut-être dans des cas triviaux, mais je n'ai pas en tête un cas où ça a été fait. La deuxième remarque, donc, c'est si le désordre est corrélé. Donc, dans l'argument de Harris dont il était question au début, on a dit chaque bloc a une température de transition qui fluctue un peu vers le haut ou vers le bas. Mais on a utilisé un théorème central limite, on a supposé que les JIJ étaient tous indépendants. Si les couplages ne le sont pas, eh bien, ces fluctuations vont être modifiées, donc ça va modifier le critère de Harris. Au lieu d'être alpha positif ou négatif, ça va changer les choses. Alors, il y a un article de notre orateur de la semaine dernière, qui est de Jean-Marc Luc, qui date de 1993, où il regarde des cas où les couplages ont des corrélations en fonction de la distance, où ils sont quasi périodiques, enfin, pas mal de cas. Un des cas où le désordre est corrélé, qui est le plus célèbre, et c'est des travaux qui sont antérieurs à ceux de Harris, c'est des travaux de McCoy et Wu, qui, en étudiant le modèle d'Ising, ont réussi à résoudre des modèles où les couplages, en fait, sont tous les mêmes, qui date de 68 à peu près, où tous les couplages sont les mêmes dans des colonnes. Donc au lieu d'avoir des couplages indépendants, tous les couplages d'une colonne, des liens horizontaux, des liens verticaux ou horizontaux, sont les mêmes. Donc il y a juste un désordre de type unidimensionnel. Alors bon, un peu tiré par les cheveux, si on s'intéresse au modèle d'Ising, on se dit pourquoi les couplages seraient comme ça. Mais en fait, bon, pour ceux qui sont un peu familiers avec ces questions, en fait, le modèle d'Ising en D-dimension est équivalent à un modèle quantique en dimension moins 1, c'est-à-dire en dimension D pour le système classique. C'est pareil, enfin, ça peut se transformer en un modèle quantique en dimension D moins 1. Et donc, d'avoir des couplages qui sont fixé. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une direction, deux directions du modèle d'Ising, par exemple bidimensionnel, qui devient la direction temporelle du système quantique. Et donc, d'avoir des couplages qui ne varient pas au cours du temps pour un système quantique, c'est tout à fait légitime. Bon. Donc, ça, c'est une petite remarque là-dessus. Et, alors, je dis quelques mots sur le modèle, sur le cas marginal. Donc, le cas marginal, en fait, ce que je raconte là, c'est le critère de Harris ne permet pas de conclure ce qui se passe dans le cas marginal, c'est-à-dire quand alpha vaut 0. Et À ma connaissance, il y a un certain nombre de résultats, mais un des plus célèbres, c'est un qui est dû aux deux frères Dotsenko, qui date des années 80, qui ont pris le cas du modèle d'Ising à deux dimensions. Et qui ont montré que même si le désordre est marginal, il est marginal irrelevant. C'est-à-dire que malgré tout, le désordre asymptotiquement ne va pas changer la nature de la transition. Bon, par exemple, l'exposant bêta qui vaut un huitième, je ne pense pas qu'il est modifié. Enfin, il faudrait que je vérifie, je n'ai pas vérifié ça récemment. Mais normalement, il s'agit du même point fixe. Néanmoins, quand on a un cas marginal, par exemple, si vous faites de la théorie des champs en dimension 4 pour le modèle d'Ising ou des choses comme ça, souvent, il y a des corrections logarithmiques. Et alors, un des résultats de Dotsenko et Dotsenko qui date des années 80, c'est de dire que pour le système du Ising, le comportement critique de la chaleur spécifique est logarithmique. Donc ça, c'est pour le système pur. Et que pour le système désordonné, eh bien, c'est avec du désordre, c'est log de log de t moins tc. Donc, ils ont montré, par des arguments essentiellement de théorie des champs et de renormalisation, que, enfin, si je me souviens bien, qu'on aboutit à des corrections logarithmiques, c'est-à-dire, c'est pas vrai, au niveau du log, c'est pas exactement la même chose, et on peut montrer que de manière générale, eh bien, si vous avez alpha égale 0, eh bien, vous risquez d'avoir des corrections qui peuvent être logarithmiques, qui peuvent être différentes de celles que vous auriez pour le système pur. Donc ça, c'est un cas de désordre de marginal irrelevant. Donc ça ne change pas grand-chose. Et il y a des cas où le désordre est relevant, auquel cas le problème est plus subtil. Et un des cas sur lesquels pas mal de gens ont travaillé, c'est ce cas de la dénaturation de la molécule d'ADN, peut-être Jean-Baptista va parler un peu tout à l'heure. C'est donc cas marginal relevant. Et donc, vous savez que les molécules d'ADN sont formées de deux bras qui sont liés entre eux, et puis ces bras s'ouvrent pour, par exemple, être recopié ou dans certaines conditions physiques, ces deux bras s'ouvrent. Alors, une façon de modéliser ces choses-là, c'est de dire vous avez ces deux bras et dû aux fluctuations thermiques, de temps en temps, les deux bras s'écartent et puis après se rapprochent, etc. Et si vous changez les conditions physiques, il va y avoir un moment où les deux bras vont se séparer. Et un cas marginal relevant, c'est celui où vous prenez en compte le fait. Alors, il y a un modèle qui est assez ancien, qui date aussi des années 60, qui s'appelle le modèle de Poulenc-Chiraga, qui considère que les énergies de liaison sont toutes les mêmes. Bon, donc ça serait le système pur. Et ce qui a intéressé pas mal de gens, dont Jean-Baptista et moi aussi depuis pas mal d'années, et sur lesquels on continue à travailler, c'est le cas où les énergies de liaison ici sont des variables aléatoires gelées, parce que la molécule d'ADN n'est pas formée que de bases toutes identiques. Les bases varient d'un site à l'autre de l'ADN. Et donc, c'est un exemple de système désordonné. On a essayé de comprendre cette transition en termes de désordre. Donc, voilà. Bon, enfin, il y a une dernière remarque que je veux faire, qui est un article qui est assez célèbre, qui est dû à Chase, je mets au carré parce qu'il y en a deux, et puis Fisher et Spencer, qui datent de 1986. Et une des questions qu'ils ont essayé d'aborder, c'est de se dire, bon, là, le critère de Harris, il est censé nous dire des choses si je mets un tout petit peu de désordre. Mais supposons maintenant que j'ai mon système qui est désordonné, un peu, beaucoup, etc. Et ils ont montré que, en général, pour un système désordonné, le nu est toujours plus grand ou égal à 2 sur d. Donc, quand vous avez du désordre, le nu est cette forme. C'est se poser la question. Maintenant, si j'ai du désordre, on pourrait se dire, si à ce système désordonné, je lui rajoute encore un petit peu de désordre, est-ce que c'est relevant ou irrelevant? Et donc ça aurait tendance à dire, non, bah, s'il est déjà désordonné, un tout petit peu de désordre en plus ne va rien changer, bon, ce qui est un peu naturel. Alors en fait, je vous encourage beaucoup à regarder cet article qui est assez simple, à mon sens, qui est intéressant. La dérivation est assez simple. Et puis c'est des mathématiques, je crois, tout à fait rigoureuses. Le point, c'est que ça repose sur une définition probabiliste de l'exposant nu. C'est-à-dire, ils définissent une certaine longueur. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais la longueur, c'est une espèce de longueur associée à l'ensemble des échantillons. Plutôt que de dire je prends un échantillon typique, ça a à voir avec la probabilité qu'il arrive quelque chose dans un certain échantillon. Bon, je pensais éventuellement le traiter, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop long, et donc j'ai pensé qu'il y avait d'autres aspects qui valaient peut-être la peine d'être discutés à la place de ça. Mais je vous encourage beaucoup de regarder cet article, et aussi d'assister, bien sûr, au séminaire de Jean Battista. Bon, donc ça, c'est le critère de Harris. Maintenant, j'en viens aux singularités de Griffiths. Alors, donc c'est de TLT des années, je ne sais pas, 67, 68, comme ça. Alors, Griffiths, c'est plutôt... Enfin, là, c'est aussi des résultats mathématiquement prouvés, mais je ne vais pas entrer dans les preuves de manière très, très détaillée, mais je vais essayer d'expliquer un peu les idées. En principe, ça s'adresse à des modèles dilués. Donc, typiquement, ce qu'on a en tête, c'est que vous avez... un réseau que certains sites, par exemple, enfin c'est un désordre de sites, là, mais on peut prendre un désordre de liens, certains sites sont occupés, ni égale 1 ou 0, avec probabilité P et A moins P, donc ça c'est le désordre gelé. Et puis vous avez une énergie qui est donnée par moins somme des J, N, I, N, J. Pour interagir, il faut que les deux sites voisins soient occupés. S, I, J. Vous avez une énergie comme ça. Vous voulez faire la physique statistique. Donc, a priori, vous avez une fonction de partition qui va dépendre des variables gelées en sommant sur les poids de toutes les configurations des spins. Et puis après, vous prenez le log, etc. Bon, alors, à quoi on s'attend pour ce système ? Bien, si vous variez ce P, eh bien, si P vaut 1, c'est-à-dire si tous les sites sont présents, c'est le système pur, donc il va y avoir une certaine température de transition. Si vous êtes à basse température, le système va être ordonné, vous augmentez la température, il y a une température de transition. Et puis, si vous avez moins de spin, manifestement, si vous P est suffisamment petit, la température de transition va être zéro parce que il y a cette transition de percolation, donc en fonction de P. Si vous changez P, au début, P petit, il n'y a que des amas tout petits qui sont là, il n'y a pas un amas infini. À une certaine valeur de la densité PC, qui dépend du réseau, eh bien, vous allez commencer à avoir des amas infinis, et puis quand vous allez augmenter encore P, vous allez avoir essentiellement un système où tous les sites sont à peu près reliés, avec quelques trous, quelques petites îles isolées ici ou là, mais essentiellement, vous allez avoir un système où les choses sont connectées sur des très grandes distances. Et ce à quoi on s'attend, c'est que la température de transition va varier comme ça, et plus on va se rapprocher de ce seuil de percolation, plus la température va baisser. Alors, en fait, il y a, par exemple, un article des mêmes personnes dont je parlais tout à l'heure, enfin pas des mêmes, des chaises, des deux chaises de Eisenman et Newman, qui datent de 87, et qui dit, qui permet de comprendre la forme ici de cette ligne de transition. Enfin, ça, c'est aussi, c'est des travaux mathématiquement rigoureux. Bon. Alors, donc, si je regarde ce diagramme de phase, eh bien, ici, c'est une phase ferromagnétique. Donc, à basse température, s'il y a un cluster infini, ben, les spins qui sont loin les uns des autres vont tous s'orienter dans la même direction. Et puis ici, c'est une phase ferromagnétique, paramagnétique. C'est-à-dire que, bon, déjà, si ça percole pas, ben, les spins qui sont pas reliés entre eux, ils n'ont aucune chance de communiquer entre eux, donc ils vont pas s'orienter. Et puis, même s'ils sont connectés entre eux et que la température est un peu haute, l'agitation thermique va faire qu'ils ne vont pas être orientés en parallèle. Donc ça, c'est le diagramme de phase auquel on s'attend. Alors, qu'est-ce que disent les singularités de Griffith ? Ces singularités de Griffith disent, en fait, attention, il y a cette ligne du système pur, et des choses vont se passer quand je vais me traverser cette ligne du système pur. Même si le système ne percole pas, quand je vais traverser cette ligne du système pur, eh bien, il va se passer des choses. Alors, qu'est-ce que prédit Griffith ? Eh bien, il prédit la chose suivante. Donc, là, j'ai un TC du système pur. Et cette courbe, c'est un TC qui dépend de la concentration. Donc j'ai des sites, certains sont occupés, d'autres vides. Ça pourrait être la concentration de liens ou ça pourrait être la concentration de sites occupés. Donc ce que dit Griffith, je vais essayer de faire sentir, c'est la chose suivante. Ici, j'ai la température critique. Et pour un système pur, ce qui se passe, c'est que l'aimantation... C'est le plan H, le champ magnétique, température. Donc j'ai mon système, moins somme de JJ, SISJ, et puis j'ai un champ magnétique, somme des SI. Donc je suis dans ce plan, et d'abord je dis qu'est-ce qui se passe pour le système pur. Et ça, c'est connu, je vais essayer de dire quelques mots là-dessus, c'est connu en particulier à partir du théorème de Lee et Yang, dont je vais parler dans un instant. Donc, en fait, ce qu'on sait sur un système pur, c'est que l'aimantation comme fonction de H et de T, du point de vue mathématique, elle est une fonction analytique de H et de T, mais de H en particulier, ici je parle de H, dans toute cette région. Il y a juste le long de cette ligne, ici, où quand j'arrive de ce côté-là, je vais trouver moins l'aimantation spontanée à la température T, et quand j'arrive de ce côté-là, j'ai plus l'aimantation spontanée à la température T. Donc, l'aimantation varie dans ce plan H et T, mais quand j'arrive ici, il y a une discontinuité. Voilà ce que dit ce qu'on sait depuis le théorème de Lee et Yang, qui date de 1952, sur lequel je vais revenir, parce que l'idée de Griffith, elle repose entièrement sur ce théorème de Lee et Yang. Alors, ce que dit Griffith, c'est la chose suivante. C'est maintenant, ça, c'est l'image pour le système pur. Et il dit la chose suivante, c'est pour le système désordonné, il va y avoir une TC de P qui dépend de la concentration, et l'aimantation va être discontinue ici. Pareil. M étoile de T moins M étoile de T, il va y avoir une aimantation discontinue parce que bon, si j'ai mis un tout petit champ et puis que je relâche ce champ, ben, je vais avoir l'aimantation spontanée vers le haut, sinon vers le bas. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a aussi un bout de ligne là qui va jusqu'à TC du système pur et là, M n'est pas analytique. Donc peut-être que M tend vers zéro quand je me rapproche de cette ligne, mais M comme fonction de H n'est pas analytique. M n'est pas analytique n'est pas une fonction analytique de H. Quand je passe cette ligne. Bon, alors on peut se dire, bon, physiquement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, d'abord, je vais essayer d'expliquer ça, d'où ça vient. Et après, je vais essayer de vous montrer que, bon, malgré tout, dans toute cette région, il y a une dynamique lente. C'est-à-dire qu'il y a des choses mesurables et que le système relaxe lentement vers son équilibre. Alors, pour ça, j'ai besoin de revenir sur ce fameux théorème de Li et Yang, qui date de 1952. Enfin, Li et Yang ont eu le prix Nobel pour tout à fait de la physique des particules. En fait, en physique statistique, ils sont restés célèbres à cause de ce théorème de Li et Yang. Donc, il date de 52 et dont il y a, comme toutes les bonnes choses, il y a différentes interprétations dans la littérature. Par exemple, il y a une version, enfin, il y a une preuve par Ruel qui date de 71, qui est un peu compacte. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à la suivre. Et il y en a une, moi, celle que je trouve assez simple, enfin, qui est un peu dans l'esprit de, qui est dans l'esprit de Ruel, sauf que c'est expliqué plus en détail. C'est dans le cours de Drew-Fitzickson, qui date de 1990. Bon, alors, le théorème de Li et Yang, il dit la chose suivante. Donc, imaginez un système d'Ising pur. Mais pas forcément sur un réseau régulier. Vous pouvez prendre un modèle d'Ising avec des interactions ferromagnétiques. Donc, Ising pur ferromagnétique. Donc, imaginez que vous prenez un système de quelques spins couplés entre eux, le nombre importe peu. Eh bien, ce que dit. Alors, bon, donc je donne un exemple d'abord, et puis après je vais l'énoncer. Par exemple, si vous prenez un modèle d'Ising très simple, c'est-à-dire deux spins avec un seul lien, alors la fonction de partition, elle est facile à calculer. C'est E puissance 2H sur T plus E puissance moins 2H sur T. Et puissance J sur T plus 2 et puissance moins J sur T. Ça, c'est deux spins. Si vous prenez un seul spin, c'est E puissance H sur T plus E puissance moins H sur T. Donc voilà des fonctions de partition très simples. Bon, mais maintenant, si vous prenez 50 spins couplés de manière compliquée, la fonction de partition sera plus compliquée. Alors, ce que disent Li et Yang, c'est la chose suivante, qui est vraie pour n'importe quel système. C'est que les zéros Z de T et de H, bien, c'est les zéros de Z dans le plan complexe de H sont tous sur l'axe imaginaire dH. Ça veut dire que je suis à une température T fixée, quelconque. Et maintenant, je regarde mon Z qui dépend de H, je veux dire, bon, ben, quand est-ce qu'il s'annule? Et il s'annule. Donc ici, c'est partie réelle de H, partie imaginaire de H, et il s'annule uniquement sur cet axe. Alors ça ressemble un petit peu à la conjecture de Riemann, sur les zéros de Riemann, et je sais pas, une fois, il n'y a pas très longtemps, je vois plus ici, mais Zahn, on avait eu une discussion avec Neumann, justement, pour essayer de faire le lien entre les zéros, le théorème de Li et Yang et la conjecture de Riemann. Bon. Alors, enfin, il avait essayé d'expliquer comment il voyait les choses, ce qui était assez intéressant, assez ardu aussi. Voilà. Donc ça, c'est le théorème de Li-Yang, vous prenez n'importe quel système ferromagnétique et vous regardez où les zéros de cette fonction se trouvent, et en fait, ils se trouvent sur l'axe imaginaire ici. Alors, une façon d'y penser, ce que souvent on le dit de manière un petit peu différente, mais bon, c'est que, en fait, la fonction de partition est essentiellement un polynôme, parce que l'aimantation du système, si vous avez n spins, elle commence à e puissance. L'aimantation peut valoir n, n moins 2, n moins 4, etc. Donc en fait, la fonction de partition, en général, c'est de la forme somme de m égale moins n à plus n de e puissance m h sur t, un coefficient qui dépend de la température. Donc, en fait, essentiellement, peut-être en mettant un petit facteur, ça, c'est un polynôme de la fonction de e puissance h sur t, et donc ce polynôme a un certain nombre de zéros. Et ce que prouve Li-Yang, c'est que ces zéros sont tous le long de l'axe imaginaire, ici. Il n'y en a pas ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça a permis de comprendre? Déjà, ce théorème de Li-Yang, il permet de comprendre ce que j'ai dit pour le système pur. Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand je change la température? Donc là, je suis dans le plan, complexe du champ magnétique. Et donc, la première situation, c'est la chose suivante. Ici, j'ai réel de H, imaginaire de H, et puis j'ai mes zéros qui sont là. Et tant que mon système est fini, c'est un polynôme en H, donc quand je vais me balader ici, tous les coefficients doivent être positifs, donc quand je vais me balader sur l'axe réel, eh bien, le Z ne peut pas s'annuler. Alors il y a deux situations. Quand je suis au-dessous de TC, quand je suis au-dessous de la température critique, que j'augmente la taille de mon système, les zéros ils vont devenir plus nombreux, le système est de plus en plus grand, le polynôme est grossi, et mes zéros ils vont s'accumuler le long de cet axe imaginaire, ils vont devenir de plus en plus proches de l'axe réel, et quand dans la limite thermodynamique où le système devient très très grand, les zéros, en fait, ils me créent une espèce de barrière qui font que la région H positif et H négatif deviennent déconnectées. Et ça, c'est ce qui se passe ici quand j'essaye de passer de H, ici le H est réel, hein, quand je passe de H positif à H négatif, ah, il se passe quelque chose, une discontinuité, un saut. Et ça, vu à travers le théorème de Li-Yang, eh bien, c'est dû au fait que ces zéros s'accumulent. Tant que le système est fini, il y a toujours un petit passage. Et puis quand le système devient de plus en plus grand, ces zéros deviennent tellement nombreux que finalement, il n'y a plus de passage, et c'est non analytique. Au contraire, quand je suis dans la phase haute température, ben, il y a de plus en plus de zéros, mais en fait, ils s'accumulent suffisamment loin. Ils s'accumulent suffisamment loin de l'axe réel, donc ils sont de plus en plus nombreux, mais d'une certaine manière, ils ne dépassent pas une certaine distance ici, qu'on appelle la singularité de Li-Yang, et donc là, on peut passer le long de l'axe réel sans problème, et l'aimantation est analytique. Bon, donc ça, c'est ce qui permet de comprendre, à travers ce théorème de Li-Yang, pourquoi l'aimantation ou les propriétés de l'énergie libre sont analytiques en dehors de cette région, et puis il y a juste cette discontinuité le long de l'axe réel. Alors, qu'est-ce que dit Griffiths par rapport à ça? Là, il considère un système dilué, mais l'idée de Griffiths, qui apparaît dans beaucoup d'autres contextes dans la théorie des systèmes désordonnés, c'est de se dire, ah, j'ai mon système dilué, mais peut-être que quelque part dans mon système dilué, forcément, si mon système est très grand, quelque part, il va y avoir une très grande région. Alors, elles ne seront pas très nombreuses, elles seront très diluées, mais des régions où il y a des régions de taille L où tous les sites sont occupés, hein, puisqu'ils sont occupés de manière au hasard, quelque part. Bon, sûrement, ça ne va pas être trop difficile de trouver des régions où il y a 4 sites occupés comme ça. 9, ça va être plus difficile, etc. Donc, il va y avoir des endroits où, si mon système est suffisamment grand, je suis sûr qu'il y a des régions où tous les des régions où tous les sites vont être occupés, et d'ailleurs entourés par des choses toutes vides autour. Donc imaginez ça. C'est facile, par un calcul très simple, de savoir combien il y a de ces régions. Si vous avez n spins, ça va être n fois p puissance l puissance d, l puissance d, et puis 1 moins p puissance d, l, d moins 1. C'est juste, vous voulez qu'il y ait l puissance d sites occupés, et 1 moins p fois d, l, d moins 1, c'est que tout ce qui est autour est vide. Donc là, vous avez un système pur. Vous avez quelque part dans votre système un système pur. Ce système, une petite région qui ressemble au système pur. Et cette région, eh bien, elle va avoir des zéros le long de cet axe imaginaire qui sont comme ça. Et comme des régions de taille arbitraire, le L peut être aussi grand que je veux, plus L augmente, plus ces régions sont rares, mais il y en aura toujours, eh bien, je vais trouver des régions, et avec des... chacune va arriver avec ses zéros de Lie et Yang, qui vont être de plus en plus près de l'axe réel, et c'est ça qui fait que quand je vais me traverser ici, eh bien, je vais avoir à traverser une frontière où il y a malgré tout des zéros qui sont aussi proches que je veux de l'axe réel. Et donc ça, c'est l'argument de Griffiths. Et alors, bon, cette idée que quelque part, il y a des régions qui ressemblent à un système pur ou bien des régions rares où il se passe quelque chose, elle apparaît dans beaucoup de contextes, dans la localisation, dans beaucoup d'autres contextes, dans la théorie des systèmes désordonnés, et à un certain nombre de conséquences. Alors maintenant, la nature, j'avoue que je ne saurais pas vous dire, bien que j'imagine qu'il y a dû y avoir pas mal de travaux sur cette question, donc ici c'est le HT, sur la nature de la non-analyticité qu'il y a ici. Est-ce que c'est simplement que la série en H diverge, mais que toutes les dérivées sont finies, ou bien est-ce que... Je suis à peu près sûr que ces choses-là ont été traitées dans la littérature. Ou est-ce qu'il y a un nombre fini de dérivées qui sont non-finies, et puis qu'il y a un comportement loi de puissance. Je pense que c'est plutôt une question de série divergente. Alors tout ça, on peut se dire, après tout, si toutes les dérivées existent, à quoi bon se préoccuper de ces singularités de Griffiths? Et alors il y a eu un article qui date aussi des années 80, ou un peu plus tard, qui est dû à Dar, et Dar et Setna. Alors je ne sais pas si j'ai noté, non, je n'ai pas dû noter ici la référence. Enfin, certainement, je crois que c'est Dar, qui est un Indien, Setna. Et puis, je crois que c'est Randeria ou un nom comme ça. Bon, je ne vais pas le noter. Et al. Bon. Et eux, ils sont arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y a ces singularités de Griffiths, mais que ça a des conséquences sur la dynamique. Et donc, ce à quoi ils ont prédit, c'est la chose suivante. Je reprends ce diagramme. Ici, j'ai la concentration. Ici, j'ai la température. Et donc, on avait ici la température du système pur. Et il y a une ligne qui est comme ça. Et donc, ce que dit Griffith, c'est que dès qu'on traverse la température critique du système pur, eh bien, il y a ces non-analyticités en champ. Ce que disent Dar et ses collaborateurs, c'est que quand je suis dans cette région, eh bien, la relaxation est non exponentielle. Et ce à quoi on va arriver, j'essaie de vous le montrer, c'est que, en fait, dans cette région, l'aimantation va relaxer, au lieu de décroître exponentiellement, va relaxer en moins une constante, log de t puissance d sur d moins 1. Ou dès la dimension d'espace. Donc c'est pas une exponentielle, hein, c'est plus lent qu'une exponentielle. Et l'idée qu'il y a derrière, elle est très simple. Elle a toujours à voir avec ces grandes régions. Elle a toujours à voir avec ces grandes régions qui ressemblent au système pur, parce que ces grandes régions, pour relaxer, elles vont avoir ça va leur prendre très longtemps pour se retourner, parce que ça ressemble à un système pur qui est très grand. Système pur, s'il était infini, son aimantation serait fixée, serait positive et resterait positive indéfiniment. Pour un système très grand, l'aimantation peut se retourner, mais ça devient de moins en moins fréquent avec la taille du système, et donc en faisant un calcul que je vais essayer de faire dans une seconde, eh bien, on arrive à ce genre de prédiction. Bon. Alors, donc, la prédiction donc de la prédiction de ces gens-là, c'est que dans cette région, c'est ce que j'ai dit, l'aimantation va décroître comme ça. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe pour un système pur ? Bon, si vous regardez l'aimantation d'un système en fonction du temps, donc pas de la température, eh bien vous avez deux situations. C'est que votre aimantation va décroître exponentiellement avec un temps caractéristique tout si la température est au-dessus de TC, et puis l'aimantation va tendre vers M étoile si la température est au-dessous de TC. Donc le système a une aimantation spontanée. Je ne rentre pas forcément dans les détails de la dynamique. Ce que j'ai en tête, c'est une dynamique de type Glober, c'est-à-dire qu'on retourne un spin à la fois avec une dynamique qui respecte le bilan détaillé. Donc je ne rentre pas trop là-dessus parce que ce n'est pas la peine de se préoccuper de ça. Bon, alors ça, c'est pour un système infini, pur. Alors maintenant, ici, vous voyez, en fait, le raisonnement va reposer surtout sur la dynamique, mais de régions qui sont pures. Et donc, je voudrais dire à quoi va ressembler la dynamique d'un système grand, mais pur. Alors, un système grand, mais pur, donc un système grand, mais pur, il va avoir ce genre de propriété. L'aimantation en fonction du temps d'un système qui est grand mais pur, elle va ressembler beaucoup au système infini, relaxé comme ici. Mais en fait, le système est grand mais pas infini, donc de temps en temps, par fluctuation thermique, il va passer à moins M étoile. Et puis, un peu plus tard, il va remonter, plus M étoile. De temps en temps, il va se basculer. S'il est tout petit, on est à basse température, par exemple. S'il est tout petit, on s'imagine bien que les spins ont envie d'être parallèles entre eux, donc ils ont une certaine aimantation spontanée, mais les fluctuations thermiques, ils vont le renverser de temps en temps. Et plus il est grand, plus le temps à attendre pour voir ce renversement va être grand. Et maintenant, on peut se demander combien il est grand, quel est le temps caractéristique ici. Et ce temps caractéristique, on s'attend, si on est en dessous de TC, que ce temps caractéristique, il va être de la forme, une fonction de la température, mais qui dépend de la taille du système, en L puissance D moins 1. C'est-à-dire, si vous prenez un système et que vous attendez qu'il se retourne, eh bien ça va être L puissance D moins 1, et ce L puissance D moins 1, il est assez facile à comprendre, c'est d'imaginer qu'est-ce qui se passe quand on est en train de se retourner. On est en train de se retourner, vous avez un système qui est essentiellement tout plus, et puis il va passer à tout moins. Et comment il va faire ça ? Ben, il va passer par un état intermédiaire où il y aura d'un côté du plus et d'un côté de moins. Bon, il y aura une région plus et une région moins. À un moment, il va bien falloir que... Et la probabilité d'observer ces régions, eh bien, si on est à très basse température, il va falloir payer l'énergie de cette interface. Si on est un peu plus haute température, il va y avoir aussi des effets d'entropie. Enfin, ce sigma, c'est ce qu'on appelle la tension de surface. Il va falloir passer par cet état intermédiaire. Et la probabilité de cet état intermédiaire, c'est E puissance LD-1 un certain sigma. C'est typiquement la probabilité d'observer cette interface. Donc, en fait, il y a ce temps qui devient de plus en plus long entre les retournements de ces régions finies de système pur. Donc ça, c'est un système de taille L. Plus j'attends, plus ça prend longtemps avant d'observer ces retournements. Et ces retournements, je pense que... Enfin, même, j'imagine sûrement qu'il y a beaucoup de travaux qui ont dû montrer que c'est un processus de Poisson asymptotique, c'est-à-dire que ça arrive et que la distribution de ces temps devient exponentielle, etc. Bon, je ne rentre pas là-dessus. Alors maintenant, on va dire, essayons de faire ce qu'ont fait Dar, Setna et leurs collaborateurs, c'est de se dire... Quelle est la contribution à l'alimentation de ces régions pures ? Ces régions pures, on a vu qu'il y a P puissance LD A moins P puissance LD moins 1 D. Donc ça, c'est le nombre de ces régions. Si vous avez N spin, N est très grand, c'est la densité de ces régions pures. Tout est occupé. Et maintenant, ces régions vont... relaxé avec un temps caractéristique qui est écrit là. Et donc, ça va être une puissance moins T sur taux, avec taux qui est de l'ordre de et puissance sigma L D moins 1. Donc, ouais, je vais le mettre directement, et puissance moins sigma L D moins 1. Donc ils disent que l'aimantation totale, va sûrement être plus grand que ça, puisque là, j'ai juste regardé la contribution de ces régions. Il y a tout le reste qui intervient. Mais si je regarde la contribution de ces régions, que je somme sur toutes ces régions, il va y avoir un L optimal, donc quand j'augmente... L, ce terme diminue, mais celui-là diminue assez lentement. Vous cherchez le L optimal, bon, c'est un petit calcul, vous optimisez par rapport au L, et vous trouvez ce que je disais tout à l'heure, et puissance C, T puissance D sur D moins 1, pardon, log de T puissance D sur D moins 1. Donc une relaxation lente. Bon, alors, oui, ici, je retrouve ces Renderaria, donc c'est Dar, Setna et Renderaria, 1988. Bon, donc ça donne une idée de cette relaxation qui est due aux régions de Griffiths. Bon, alors pour terminer, il y a, par exemple, voilà, typiquement... Quand on fait un cours sur les systèmes désordonnés, un sujet qu'on utilise par exemple pour un examen, où on voit ces relaxations lentes, qui est la chose suivante, c'est de se dire... Donc c'est toujours l'idée qu'il y a des grandes régions qui ressemblent à un système pur qui vont contrôler quelque chose pour la dynamique. Donc un exemple simple, il y a le même phénomène, si vous imaginez un système unidimensionnel et vous mettez une certaine concentration de pièges. Rho, concentration de pièges. Donc les pièges sont mis par un processus de Poisson. Vous mettez une certaine densité de points, mais sans aucune corrélation. Et maintenant, vous mettez un marcheur au hasard, je sais pas, et vous posez la question, quelle est la probabilité que ce marcheur... survivre, c'est-à-dire ne soit pas tombé dans aucun piège, ou bien vous mettez beaucoup de marcheurs et vous vous posez la question au cours du temps, quelle est la densité de marcheurs qui restent, qui ne sont pas tombés dans ces pièges. Alors, ça c'est un calcul qui peut se faire exactement, et vous trouvez que le nombre de marcheurs, c'est égal au nombre de marcheurs que vous aviez initialement, intégrale de 0 et puissance moins rho de x rho dx, bon, j'écris la formule, intégrale de 0 à l'infini de rho de... Bon, j'écris directement la dernière formule, c'est la chose suivante, c'est intégrale de 0 à l'infini de e puissance moins rho s rho 2s. Enfin, c'est un calcul assez élémentaire. Et c'est somme de n égale 0 à l'infini de 8 sur pi carré, je suis désolé, pour les puissances moins 2n plus 1 au carré, pi carré t sur s2. Voilà, dernière formule que j'écris aujourd'hui. Et ça, c'est simplement le calcul repose exactement sur la même idée que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez dire je prends mon marcheur, il va se retrouver dans une certaine région. Le S qui est là, c'est essentiellement la région dans laquelle il se trouve. Et manifestement, il va, de temps en temps, il va y avoir des grandes régions où il n'y aura pas de piège. On peut calculer la densité de ces régions où il n'y a pas de piège. Et le marcheur, bah, il va mettre beaucoup plus de temps à être absorbé dans une région où il n'y a pas de piège. Et ça, pour les temps longs, ça se comporte en puissance t puissance moins 1 tiers. Donc on trouve à nouveau une décroissance lente qui est due à ces grandes régions, qui est un peu le cousin de cette décroissance lente dont je vous ai parlé à l'instant. Bon, je vous remercie.